Oh Henry, Mammon et le petit archer. Le vieil Anthony Rothwell, industriel retraité et ex-propriétaire du savon Rockwell Eureka, jeta un regard par la fenêtre de sa bibliothèque et grimaça un sourire. Son voisin de droite dans la 5e avenue, l'aristocratique clubman Van Schuylight Suffolk Jones, venait de sortir et, tout en se dirigeant vers sa luxueuse automobile, avait, comme d'habitude, retroussé ses narines d'un air dédaigneux à l'aspect des sculptures renaissance italiennes qui décoraient la façade du manoir Eureka Rockwall. « Vieille momie !» grogna l'ex-roi du savon. « Vieux fainéante, bon à rien !»« Le musée de l'Éden va pas tarder à récolter ce vieux Nesrod !» pétrifié, s'il fait pas attention. Eh bien, l'été prochain, je ferai peindre cette maison en bleu, blanc-rouge, pour voir si ça lui fera lever son nez, hollandais, un peu plus haut. Puis, Anthony Rockwall, qui n'aimait pas se servir des sonnettes, se dirigea vers la porte de sa bibliothèque et gueula « Mike !» de la même voix dont il faisait autrefois trembler le firmament au-dessus des prairies du Kansas, au risque de faire tomber des morceaux de plâtre du céleste plafond. « Dites à mon fils, » ordonna Anthony au valet accouru, « de passer me voir avant de sortir. » Lorsque le jeune Rockwall entra dans la bibliothèque, le bonhomme laissa tomber le journal qu'il était en train de lire et contempla son fils avec un sourire affectueux et bourru. Puis il fourragea d'une main sa rude tignasse de cheveux blancs tout en faisant de l'autre main sauter ses deux clés dans sa poche. « Richard, » dit Anthony Rockwall, « combien payes-tu le savon dont tu te sers habituellement ?» Richard était un grand garçon aux joues roses et imberbe qui avait quitté l'université que depuis 6 mois. La question de son père le fit tressaillir légèrement. Il n'avait pas encore eu le temps de s'habituer aux brusques saillies du bonhomme, dont la conduite était souvent aussi surprenante que celle d'une jeune fille à sa première sortie dans le monde. « 6 dollars la douzaine, je crois, papa. »« Était complet. Environ 60 dollars en moyenne. »« C'est un gentleman, » affirma Anthony énergiquement. « J'ai entendu raconter que ces jeunes snobs de la haute payent leur savon 24 dollars la douzaine et leur complet plus de 100 dollars. Mais tu as autant d'argent qu'eux à dépenser. Et pourtant tu persistes à te contenter d'articles de qualité moyenne et de prix modéré. Moi, je me sers du vieil Eureka, non seulement pour des raisons sentimentales, mais parce que c'est vraiment le savon le plus pur qui a jamais été fabriqué. Chaque fois que tu achètes un morceau de savon plus de 20 sous, on te fait payer l'étiquette et de sale parfum bon marché au prix de la marchandise. Mais 6 dollars la douzaine, ça peut aller pour un jeune homme de ta génération, de ta position et de ta condition. Je te l'ai déjà dit, tu es un gentleman. On prétend qu'il faut 3 générations pour en faire un. Quel lac! L'argent vous fabrique ça en 5 secs, mon garçon. C'est grâce à lui que tu en es un. Dieu me savonne, la chère vieille galette a presque réussi à faire de moi aussi un gentleman. Je suis devenu à peu près aussi impoli, aussi désagréable, aussi mal élevé que ces deux vieux Vandetrankenbeek qui habitent de chaque côté de ma maison, qui ne veulent pas dormir parce que je suis venu me fourrer entre eux deux. Ben, il y a pourtant des choses que l'argent ne peut pas faire, remarqua le jeune Rockwall d'un air plus sombre. « Voyons, dis pas cela, » dit le vieil Anthony d'un ton indigné. « Mais je te parie que l'argent gagne à tous les coups, mon garçon. J'ai feuilleté toute l'encyclopédie depuis A jusqu'à Z pour tâcher d'y trouver quelque chose qu'on ne peut pas se procurer avec de l'argent. Le diable m'emporte si j'en ai découvert une seule, même un article incorruptible. Je te dis que l'argent arrive toujours 10 longueurs devant le reste du lot. » Cite-moi quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Eh bien, par exemple, répliqua le jeune Richard avec une certaine chaleur, l'argent ne suffit pas à vous faire accepter dans les sphères exclusives de la haute société. Vraiment, tonitrua le champion du veau d'or. Mais dis-moi un peu où seraient aujourd'hui les sphères exclusives, si le premier Aster ou Van le Put qui a débarqué ici n'avait pas eu l'argent pour payer son passage, hein? Richard soupira. Et voilà où je voulais en venir, dit le bonhomme d'un ton un peu radouci. C'est pour ça que je t'ai fait prier de venir me voir. Il y a quelque chose qui n'a pas l'air de gazer chez toi, fiston. Bon, je suis bien aperçu. Et ça dure depuis 15 jours. Allez, crache le morceau. Tu sais que je peux disposer de 35 millions en moins de 24 heures, sans compter les propriétés foncières. Si c'est ton foie qui ne va pas, tu n'as qu'à sauter dans le Rambler. Il est sous pression dans la baie, et en 2 jours, tu es aux Bahamas. Pas trop mal deviné, papa, c'est presque ça. Oh, fit Anthony, en scrutant d'un regard perçant le visage du jeune homme. Comment s'appelle-t-elle? Richard se mit à marcher de long en large dans la bibliothèque. Il y avait donc tant de camaraderie et de sympathie en ce fruste vieux papa que le jeune homme se sentit enclin aux confidences. Mais pourquoi ne demandes-tu pas carrément en mariage? Fit le vieil Anthony. Et on sautera de joie. Tu es riche, beau garçon et bien élevé par-dessus le marché. Et tes mains sont propres, bien qu'il n'y ait pas de savonnerie qu'à-dessus. Il est vrai que tu as été au collège, mais c'est une chose qu'elle pardonnera facilement. Je n'ai jamais trouvé l'occasion de lui parler, dit Richard. Crée-la, bon Dieu! S'écria Anthony. Emmène-la promener dans le parc, à pied, à cheval ou en voiture. Va la chercher à la sortie de l'église, enfin, une occasion. Mais tu ne connais pas le moulin mondain, papa. Elle est dans le courant qui l'a fait tourner. Tout ce qu'elle doit faire est prévu, est fixé heure par heure, minute par minute, 8 jours d'avance. Et pourtant, si je ne peux pas la conquérir, cette ville ne sera plus jamais pour moi qu'un marécage fétide et sombre. Je ne peux pas le lui écrire, ça. C'est pas des choses qu'on écrit. Tut, dit le bonhomme. Tu vas pas me faire croire qu'avec tout l'argent que je possède, t'es pas fichu de passer 1 heure ou 2 en tête à tête avec cette jeune fille. Hélas, il est trop tard maintenant. Elle s'embarque après-demain à midi pour l'Europe, où elle doit rester 2 ans. Je dois la voir seule demain soir pendant quelques minutes. Elle est à Larchmont aujourd'hui chez sa tante. Je ne suis pas autorisé à y aller, retrouver, mais l'on me permet d'aller l'attendre demain soir avec une voiture au train de 8h30 à la gare de Grande Centrale. De là, nous descendons Broadway à toute allure jusqu'au Wallack, où sa mère et des amis nous attendront dans le hall. Crois-tu qu'elle consentirait à écouter une déclaration dans ces circonstances et en 7 minutes alors? Et quelle chance de plus aurais-je ensuite au théâtre ou ailleurs? Aucune! Non, papa, c'est là une de ces maudites fatalités que tout ton argent est incapable de détourner. On ne peut pas acheter le temps comme du savon, pas même 1 minute. Et si on pouvait, les gens riches vivraient plus longtemps. Il n'y a aucun espoir pour moi de pouvoir causer un peu longuement avec Miss Landry avant son départ. Très bien, Richard, mon garçon, dit le vieil Anthony joyeusement. Tu peux aller à ton club maintenant. Je suis content que ce ne soit pas ton foie. Mais n'oublie pas de brûler de temps en temps quelques cierges en l'honneur du grand dieu Bazuma. Tu dis que le temps ne s'achète pas avec de l'argent. Oui, bien entendu. Tu ne peux pas commander une douzaine de siècles payés à mon domicile, livrer son franc de port et d'emballage. N'empêche que j'ai parfois vu le père Temps attraper de sérieuses ampoules quand il déambulait au milieu des mines d'or. Ce soir-là, tante Hélène, une petite vieille aimable, sentimentale, ratatinée, farcie d'œillades et de soupirs, et paraissant écrasée par la fortune, entra chez son frère Anthony au moment où celui-ci lisait son journal du soir, et se mit à discourir sur le thème immortel des infortunes amoureuses. « Il m'a tout dit, » fit Anthony en bâillant. « J'ai informé que mon compte en banque était à sa disposition. » Et alors, il s'est mis à décliner l'argent, dit que l'argent était impuissant dans le cas du en question, que les règles, barrières, fils barbelés ou je ne sais quoi de la haute société ne sauraient être enfoncés même d'un centimètre par un attelage de millionnaire. « Oh, Anthony !» soupira Dandelaine. « Tu te fais une idée bien trop haute de l'argent. La fortune ne compte pas lorsqu'un véritable affection est en jeu. L'amour est tout-puissant. Si seulement il avait parlé plus tôt, jamais elle n'aurait refusé notre Richard. Mais là, je crains qu'il ne soit trop tard maintenant. Il ne peut plus avoir aucune occasion de lui proposer son cœur. Et tout honneur est impuissant à donner le bonheur à ton fils. » Le lendemain soir, à 8 heures, tante Hélène prit dans un antique écrin tout mité un vieil anneau d'or et l'offrit à Richard. « Porte-le ce soir, mon neveu, » pria-t-elle. « C'est ta mère qui me l'a donné et prétendait qu'il portait bonne chance en amour. Et c'est elle qui me fit promettre de te le présenter lorsque tu aurais trouvé l'élu de ton cœur. » Le jeune Rockwall prit l'anneau révérencieusement et l'essuya, seya sur son petit doigt. Il entrait à peine. Alors Richard le mit dans la poche de son gilet, selon la tradition masculine. Puis il fit avancer sa voiture. À la gare, il cueillit Miss Landry au milieu de la foule des voyageurs, exactement à 8h32. « Il faut pas faire attendre maman et nos amis, » dit-elle. « Au théâtre Locke et à toute vitesse !» commanda loyalement Richard au chauffeur. Ils avalèrent la 42e avenue, puis tournèrent dans Broadway et s'élancèrent dans cette artificielle voie lactée constellée d'astres électriques qui commence aux douces prairies du crépuscule et finit aux coteaux rocailleux de l'aurore. Au croisement de la 34e rue, le jeune Richard, qui laissait pendre sa main droite par la fenêtre en jouant négligemment avec l'anneau de la tante Hélène, frappa tout à coup à la vitre pour faire arrêter le chauffeur. « Oh, excusez-moi, » dit-il à Miss Landry, « j'ai laissé tomber une bague. Elle me vient de ma mère et je voudrais pas la perdre. Oh, j'en ai pour une minute. » Et en effet, en moins de 50 secondes, il était de retour sur les coussins de la voiture. Mais, durant sa courte absence, un autobus d'une ligne transversale s'était arrêté juste devant eux. Le chauffeur essaya de passer à gauche, mais il fut barré par un lourd camion. Une nouvelle tentative pour forcer le blocus par la droite fut annihilée grâce à l'arrivée tout à fait inopportune d'un autocar vide. Pas moyen de reculer non plus maintenant. Le chauffeur leva les bras au ciel en maugréant. Ils étaient bloqués au milieu d'un inextricable embouteillage qui, comme il arrive souvent dans la grande cité, semblait avoir arrêté tout d'un coup le battement de son cœur. « Mais pourquoi n'avancez-vous pas ?» demanda Miss Landry impatiemment. « Nous allons être en retard. » Richard se souleva sur les coussins et regarda autour de lui. Il aperçut un flot congestionné de voitures, de taxis, de camions, d'autobus qui couvrait entièrement le vaste carrefour de Broadway au confluent de la 6e avenue et de la 34e rue. Et de tous côtés, il en arrivait d'autres qui se précipitaient à toute allure vers la mêlée dans un étourdissant fracas de trompes, de freins et d'imprécations. Toute la circulation automobile de Manhattan semblait être concentrée en ce maudit carrefour où elle s'étranglait désespérément. De mémoire d'homme, on n'avait encore jamais vu à New York un pareil embouteillage aussi formidable. « Oh, je suis navré !» dit Richard en se tournant vers Miss Landry. « Mais il semble que nous sommes bien bloqués. Il y en a au moins pour une heure avant que les agents puissent débrouiller cet écheveau de véhicule. » « Je vous demande pardon. Oh oui, c'est ma faute. Je n'avais pas laissé tomber cette bague. Faites-la-moi voir, dit Miss Landry. Puis s'il n'y a rien à faire après tout, ça m'est égal, oh, je déteste les théâtres. À 11 h cette nuit-là, quelqu'un frappa légèrement à la porte de la chambre d'Anthony Rockwall. Entrez! Hurla Anthony, qui, vêtu d'une robe de chambre rouge, était en train de lire un récit palpitant de piraterie romanesque à 25 sous le volume. C'était Antélène radieuse, pareille à un vieil ange à cheveux gris qui aurait été oublié sur la terre par erreur. Ils sont fiancés, Anthony, fit-elle d'une voix céleste. Elle a promis à notre Richard de l'épouser. Tandis qu'ils se rendaient au théâtre, il y a eu un embouteillage et leur voiture n'a pas pu se dépêtrer avant 2 bonnes heures. Anthony, mon frère, garde-toi de vanter désormais la puissance de l'argent. C'est un petit emblème du véritable amour, un petit anneau symbolisant une affection éternelle et pure de toute vénalité qui a apporté le bonheur à notre Richard. Il lui échappa dans la rue, alors il sortit pour le ramasser, et juste à ce moment-là se produisit l'embouteillage qui les empêcha de continuer leur route. Alors il put tout à loisir parler à sa bien-aimée et la conquérir pendant tout le temps que la voiture resta bloquée. Là, j'en ai que poussière, vois-tu, comparé au véritable amour, Anthony.
Parfait, dit le vieil Anthony. Je suis ravi que le fiston ait fini par dégoter sa chérie. Je lui avais dit que je ne regarderais pas à la dépense pour tout ce qui pourrait.
Mais mon frère Anthony, à quoi ton argent eût-il pu être bon en cette circonstance?
Ma chère sœur, dit Anthony Rockwall. Mon pirate est dans une situation désespérée. Son bateau vient de se faire crever les flancs et il veut à tout prix l'empêcher de couler, car c'est un trop bon juge de la valeur de l'argent. Non, je te supplie de me laisser finir mon chapitre. L'histoire devait s'arrêter là, mais j'aurais désiré aussi cordialement que vous-même, sans doute, qu'elle s'arrêtât là. Il faut chercher ailleurs la vérité, jusqu'au fond du puits. Le lendemain, un individu aux mains rouges, le cou ceint d'une cravate bleue à pois marron, se présenta chez Anthony Rockwall, expectora d'une voix rauque le nom de Kelly, et fut aussitôt introduit dans la bibliothèque. Alors, fit Anthony, en saisissant son carnet de chèques, nous avons fait une superbe salade. Voyons, je vous avais remis 5 000 $ en espèces.
J'y ai ajouté 300 $ de ma poche, dit Kelly. Ça dépassait un peu le forfait convenu, mais j'ai pas pu faire autrement. J'ai eu les taxis pour 100 $ la pièce en moyenne, mais les camions n'ont pas voulu marcher à moins de 10 $. Pour les autobus et les autocars, il a fallu que je crache de 20 à 15 $ pour conducteur. Et c'est les flics qui m'ont signé le plus fort. 50 $ que j'ai payé les 2 galonnés et le reste de 20 à 25 $ par tête de pipe. Est-ce que ça a bien gazé, monsieur Rockwall? Oh, formidable! Si le type d'Hollywood qui fabrique les mouvements de foule avait été là, il en serait crevé de jalousie. On n'avait même pas fait une seule répétition. Tous mes œuvres se sont amenées juste à l'heure dite, à une seconde près. Et pendant 2 heures, même un serpent n'a pas pu passer sous la statue de Greeley. 1 300 $, voilà, Kelly, dit Anthony, en tendant un chèque à l'homme. Pour 1 000 $ d'honoraires, plus les 300 $ que vous avez ajoutés de votre poche. Et dites, Kelly, vous méprisez pas l'argent, vous. Moi, gueula Kelly indigné. Si je pouvais décolleter le type qui a inventé la pauvreté, qu'est-ce que je lui foudrais comme trempe? L'homme fit ses adieux et se retira. Il allait refermer la porte lorsqu'Anthony le rappela. Dites, Kelly, dit-il, vous n'avez pas aperçu dans la bagarre une espèce de petit garçon plutôt grassouillet qui tirait des flèches dans le tas avec un arc, un gosse tout nu, non? Bon, sûrement pas, fit Kelly mystifié. S'il était tout nu, comme vous dites, Possible que les flics l'aient coiffré avant que j'arrive. Ah, je me doutais bien que le petit crapaud serait pas là, gloussa Anthony. Adieu, Kelly.